la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon! Vive le soleil! Vive
les oreilles!
Libre!
Les panaris, c'est très marrant, ça fait rigoler. La piscine, ça déchire. Voyager, c'est trop bien. Aller en République dominicaine. Aller faire le tour de la France. Prendre l'avion, au décollage ça déchire, et à l'atterrissage ça freine fort, et quand on arrive à destination, bah, c'est super. Aller toujours au même endroit, c'est pas marrant, c'est chiant. Aller toujours au même endroit, c'est bien, mais au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Les sables d'Olonne, ça déchire, franchement, c'est chouette. Il y a des jolies filles. Et la vie est belle là-bas. Il y a la mer, il y a la fête au bord de la plage. Et mamie, elle râle tout le temps. Mamie, elle râlait tout le temps. Et là, je vais être tonton, mais c'est difficile pour moi d'être tonton. Je sais pas ce que c'est. Ça me fait un peu peur. En même temps, ça me fait des émotions. Et j'espère que quand on est tonton, c'est pas comme ça qu'on fera un coup de vieux, quoi. Parce qu'on peut être tonton et être adolescent, on peut être tonton aussi, quoi. Donc, c'est pas... pas que quand on... Ça veut pas dire être tonton, être vieux, quoi. La séance de gros mots tous les mercredis, c'est ça me défoule dans le camion avec Ben. Et moi j'aime pas quand on me crie dessus, moi quand les gens à l'extérieur me crient dessus, ça me fait peur et je peux m'énerver très fort.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, sur Internet. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Alors aujourd'hui, on va parler d'une exposition qui se tient au musée Saint-Gervais-Polignac, dans l'enceinte de l'hôpital Sainte-Anne. Et nous recevons le docteur Anne-Marie Dubois pour cette exposition Psilo... Sibine, j'ai toujours un doute sur le B ou le C avant. Quand la psychiatrie observe la création, les années 60 à Sainte-Anne. Bonjour Anne-Marie, c'est la troisième fois qu'on vous reçoit et avec beaucoup de plaisir à chaque fois. Peut-être on peut signaler ce qu'on vient d'entendre, Laurent, à savoir les Harry's. Et bien, je crois que leur disque s'appelle Gégote. J'ai un doute sur le nom exact du truc. Et voilà, ce sera un petit peu notre fil rouge. Nos pauses musicales seront assurées en grande partie par les Harry's. Donc, les Harry's sont les copains de l'émission Radio Tisto, qui a lieu un mercredi sur deux, je crois le deuxième et le quatrième. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est le deuxième et le quatrième mercredi du mois, de 14h30 à 16h. Une émission avec l'hôpital de jour de Anthony. Alors, peut-être pour débuter sur cette exposition... peut-être vous pourriez nous... Qu'est-ce que la psilocybine, d'ailleurs, pour commencer, parce que c'est quand même...
Oui, effectivement, on a beaucoup tourné autour du titre de l'exposition. Ouais. Le centre, c'était la psilocybine. On a pensé la psilocybine qui est un produit hallucinogène, qui est extrait d'un champignon hallucinogène, qui est d'ailleurs un champignon assez commun, qu'on trouve assez facilement.
Ah bon ?
Enfin, qui a été surtout récolté au Mexique, mais en fait, il y en a pas mal en France aussi. On le connaît pas forcément, mais... ce champignon a été synthétisé sous forme de comprimés d'un produit pharmaceutique par une équipe suisse des laboratoires Sandoz dans les années 58. Mais la psilocybine avait été découverte par Roger M. Enfin, il a fait ce grand professeur de mycologie avait fait des études très approfondies sur ce produit. Ce produit qui avait été expérimenté par un certain nombre de gens au moment où il l'a découvert. Et Roger M. Connaissait bien Jean Delay qui s'intéressait depuis fort longtemps aux effets des drogues, enfin, ou plutôt des produits, divers sur le fonctionnement psychique des gens et aussi sur ce que ces états particuliers induits par ces produits pouvaient nous faire comprendre éventuellement des processus de création. Il faut dire que Jean Delay s'intéressait de près d'abord à la mescaline et au hashish parce que c'était un grand ami de Michaud et que Michaud était un grand spécialiste de l'étude sur lui-même de toutes ces choses, de toutes ces choses-là. Oui. Mais il a pris beaucoup de choses, effectivement, pendant de nombreuses années avant même de prendre la psilocybine, ce qu'il a pris aussi. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il a une réflexion et une distanciation par rapport à tous les effets que ces produits induisent chez lui, qui est rare. On a réellement l'impression que c'est pas uniquement le voyage qui est recherché, c'est quelque chose qui va au-delà de ça et qu'il essaye de maîtriser au maximum ce qui peut se produire pour lui, pour compléter sa connaissance de son propre fonctionnement psychique et puis de ses propres potentialités créatrices. Donc le point de départ, c'est ça. C'était sans doute la connaissance de Delay et l'intérêt de Delay pour tout ce qui pouvait lui faire explorer davantage ce qui se passait chez les patients. Et puis la connaissance de Michaud et la rencontre avec Roger M, qui lui a fourni des comprimés de psilocybine pour faire une expérimentation à la fois, les expérimentations ont été en plusieurs temps, mais pour que Delay puisse expérimenter avec son équipe, ces comprimés de psilocybine, à la fois chez des patients, à la fois chez des gens considérés comme normaux, et puis dans un deuxième temps, chez des artistes.
Voilà, c'est ça. Peut-être on y reviendra. Moi, j'ai des interrogations par rapport à ça, mais... je voulais que vous nous indiquiez, parce que là vous nous parlez de plusieurs personnes, Jean Delay, donc qui est médecin.
Médecin, chef de service et titulaire de la chaire de psychiatrie à Paris à cette époque-là.
Après, il me semble que dans cette exposition, il y a référence à une thèse.
Oui, il y a deux thèses en fait.
Deux thèses.
Deux thèses réalisées. Vous savez, les thèses, c'est des travaux en général de recherche qui sont sous la direction d'un professeur. Donc là, il y a eu deux thèses, une en 58 et une en 60, qui ont été réalisées à partir d'expérimentations mises en place par Jean Delay, avec d'une part Anne-Marie Quétin, qui était sa première élève, et René Robert, qui était son deuxième élève. La deuxième thèse étant... très nourri des résultats de la première. Mais c'était donc des expérimentations et des analyses de l'expérimentation qui ont donné lieu à des travaux scientifiques qui étaient des thèses de médecine en spécialité psychiatrie.
Qu'est-ce qu'on recherche en fait quand on teste des produits comme ça sur des patients et sur des gens pas bons?
Oui, en fait... Bon, c'était un intérêt qui datait de 49. Le premier article que Delay a écrit sur les effets de la mescaline sur les perceptions visuelles, c'était de 49. C'était avant que des médicaments n'existent réellement psychiatriques. Les neuroleptiques n'étaient pas découverts, et a fortiori les antidépresseurs qui ont été découverts bien après. Ces expérimentations se situent dans cette période où les psychiatres cherchaient d'autres moyens thérapeutiques que ceux qui étaient à leur disposition et qui étaient assez limités à l'époque. Il y avait des barbituriques et puis il y avait des moyens de contention et puis il y avait des choses, mais il n'y avait pas de produits réellement efficaces, en particulier sur la schizophrénie. Et la schizophrénie fascinait parce que la schizophrénie induit pour certaines formes d'entre elles des délires, des hallucinations, des choses qui sont assez proches de ce que un produit hallucinogène peut induire chez un sujet normal. Donc je crois que la finalité, elle était double. Elle était de chercher des produits susceptibles de comprendre le mécanisme de cette maladie et de chercher aussi des médicaments.
Alors, ce que je comprends de ce que j'ai lu aussi dans le petit dossier de presse qu'on trouve à l'exposition, est-ce qu'il était question de reproduire artificiellement le mécanisme de la maladie, du dérèglement mental.
Oui, oui, tout à fait. C'était trouver un produit qui permette de faire de produire une psychose artificielle, disons. C'était aussi un moyen de mieux comprendre le mécanisme de cette maladie. Et mieux comprendre le mécanisme, ça pouvait être, dans un deuxième temps, de trouver des remèdes pour ça.
Oui, voilà, oui, mais parce que moi, ce que je me demandais, cette recherche n'est pas faite pour trouver un remède, justement.
C'était
pas remède, ça. La psilocybine.
La psilocybine, non. C'est pas un remède, même si maintenant la psilocybine est explorée de façon scientifique, pas en France, parce qu'en France, ces choses-là sont extrêmement encadrées, peut-être trop d'ailleurs, pour qu'une inventivité soit réelle, comme à l'époque. Mais ce produit est analysé et expérimenté, pas forcément en psychiatrie, mais en cancérologie et dans d'autres pathologies, aux États-Unis en tout cas.
Et alors, quand vous dites qu'il est exploré, étudié, c'est chimiquement, j'imagine.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais à l'époque, est-ce que c'était le cas ?
À l'époque, il y a eu ce produit qui est proche du LSD. Hein. La psilocybine, c'est assez proche du LSD. Vraiment, il y a des publications de Delay sur les psychoses artificielles. Donc, c'était vraiment essayer de comprendre de façon plus scientifique, peut-être, les mécanismes de tout ce qui se produisait à ce moment-là, les hallucinations, les auditives, les hallucinations visuelles, les troubles de la perception, les dépersonnalisations, enfin tous ces symptômes-là. C'était la possibilité de les reproduire. Il faut dire que les expérimentations avec la psilocybine, ça se situe entre 58 et 60. Et c'était quelques années après 1952, c'est la date de la découverte des neuroleptiques. D'accord. Et les neuroleptiques, c'était les premiers produits véritablement efficaces pour les schizophrénies. Mais on n'avait rien pour les grands états mélancoliques, les grands états dépressifs, etc. C'était aussi une des motivations, je crois, de l'utilisation de la psilocybine. C'est-à-dire trouver quelque chose qui stimule les gens dont toutes les capacités cognitives et psychiques sont éteintes ou verrouillées par une dépression profonde. C'était ça.
Mais alors, vous allez trouver ma question, c'est une question de néophyte, hein, je n'y connais rien, absolument rien. Pourquoi reproduire artificiellement ce qu'on a, des patients schizophrènes et...
Parce que reproduire artificiellement sur des gens normaux, par exemple, ce qui a été le cas, puisque l'expérimentation a eu lieu à la fois chez la première expérimentation, à la fois chez des gens dits normaux et des gens malades, c'était pour mieux comprendre comment les choses se naissaient, comment les choses s'installaient et quelle était la nature des perceptions. Puisque chez les gens normaux, les faits étaient assez courts. Et ce qui a été demandé à tous les gens qui ont expérimenté la psilocybine lors de la première du premier essai, c'était de faire des auto-observations, c'est-à-dire de raconter très précisément, minute par minute, tout ce qui se passait pour eux. Mmh. Et ces auto-observations, nous les avons reproduites dans le livre publié D'accord. à l'occasion de, oui. de... Alors, seules les observations des gens normaux ont été reproduites. Hein. Nous n'avons pas reproduit les auto-observations de patients, bien sûr.
Mais pourquoi ?
Pour des raisons de, je crois, éthiques, parce que c'était difficile à ce moment-là. Et alors, une des conclusions de la première thèse, c'était que les effets physiologiques étaient les mêmes chez les patients et chez les gens normaux. Parce qu'il y a des effets physiologiques aussi, des sensations d'engourdissement, des sensations d'accélération, des choses très contradictoires. Une modification de la tension, une modification du rythme cardiaque, etc. Il y a ça. Et en revanche, sur le plan psychique, et ce qu'on pouvait imaginer d'ailleurs, c'est qu'il y a une majoration des problèmes psychiatriques chez les malades. chez les non-malades, il y a effectivement une psychose expérimentale, mais qui disparaît très vite.
Oui, d'accord. Ouais. Et alors, la troisième catégorie de gens à qui l'expérience est adressée, et ça c'est une question aussi que j'ai, ce sont des artistes, je ne sais pas le mot du coup, mais des gens qui font du dessin, ou de la peinture. Et ma question, ce que je me demandais, c'est pourquoi ce vecteur du dessin est-il intéressant
pour... Oui.
Parce qu'on est dans les années 60 et on peut imaginer qu'on peut filmer les réactions des gens, qu'on peut même les enregistrer. Pourquoi le dessin en particulier ?
Alors là, ça touche de très près ce qui se passe, ce dont je m'occupe en ce moment dans le service, c'est-à-dire le centre d'études de l'expression et les ateliers où sont produits entre autres choses, des œuvres plastiques. À cette époque-là, en 58, il y avait déjà dans le service des ateliers et déjà Volma, qui est un de mes prédécesseurs, et Delay, qui avait créé ses premières unités de thérapie à médiation artistique, s'interrogeaient sur les processus de création et s'interrogeaient sur les liens qu'il y avait entre les maladies, schizophréniques en particulier, et la production plastique des gens. Donc il y avait ce centre qui était déjà un lieu où l'expression plastique était extrêmement présente. Ouais. Et puis toujours les amitiés sans doute de Delay avec Michaud qui lui avait déjà produit ses dessins mescaliniens, etc. Ouais. Donc c'était en voyant ces malades produire dans les ateliers d'art-thérapie, je pense que, j'y étais pas, mais je pense que Volma et Delay ont eu envie d'interroger des artistes peintres professionnels sur l'effet que la prise de psilocybine pouvait avoir sur eux, d'une part, et sur leur production plastique, d'autre part. Donc ça, c'est le point de départ de l'exposition et du livre, c'est-à-dire de raconter ces expériences-là et de voir comment la prise de psilocybine a pu influencer, de façon d'ailleurs très différente selon les artistes, influencer leur production.
Et donc, puisque ce sont quand même des expériences scientifiques, on n'est pas là dans une réunion de gens qui se défoncent, je ne sais pas quoi, quelles sont les conclusions de ces expériences ?
Oui, c'était des études qui étaient très bien menées avec un vrai protocole. Avec un vrai protocole. Donc il était question pour chaque artiste de prendre la 10 mg de psilocybine, soit chez eux, soit à l'hôpital, toujours en présence du médecin qui faisait sa thèse, René Robert, ou d'autres médecins de l'équipe de Delay. C'est-à-dire que ces gens n'étaient jamais seuls. Et des observations étaient rédigées minute par minute pour... des observations étaient rédigées pour rendre compte de ce qui se passait pendant l'heure et demie d'effet du produit.
Une heure et demie. D'accord. Oui, on va revenir là-dessus. Je propose qu'on fasse une petite pause. Laurent, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Les Harris,
allez, toujours.
Il est parti, le petit marchand de galettes est parti, à Paris. Il reviendra, le petit marchand de galettes, il reviendra, il prendra cela. Un crocodile s'en alla à la guerre, il est au revoir à ses petits enfants, traînant sa queue dans la poussière, il allait et on donnait Gabriel, marche militaire, dont il nageait Gabriel, et oh la grosse non, quand il ouvrait la gueule toute entière, Matisse, on croyait voir, j'ai de bidonnant. Allez, crocodile, c'est mon ennemi, ils sont partis, n'en reparlent plus. T'entends bien, Mathis? Parce que chez moi, Mathis, jamais il faut leur boule. Jamais, Mathis! soit que les conneries, Baptiste m'a fait en venir les gendarmes. Les gendarmes ont dit au terre. Ah non, Baptiste. Ceux avec la fourgonnette, Baptiste. Cochez la tour, Baptiste. J'entends. Ça suffit, toi, maintenant, Baptiste. Moi, si ce boulet, moi, je pars. Tu conduis plus, Baptiste. Ah, le PK Baptiste, c'est plus nommé, Baptiste. Tu cours, Baptiste.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à l'exposition Psilocybine au musée Saint-Gerre-Polignac en compagnie du docteur Anne-Marie Dubois. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de l'expérimentation? Moi, j'aimerais bien aller concrètement savoir s'il y a un processus identifiable et qu'on a pu identifier, qui soit répété, et il me semble que oui. Comprendre comment ça se passe, et notamment par rapport à cet ensemble d'œuvres, une trentaine d'œuvres, mais là il n'y a pas les 30, mais réalisé en 1h20, ça c'est vachement surprenant, d'un seul et même artiste dont je ne sais plus le nom.
Lafitte.
Oui, voilà. Et qui commence avec des tableaux de je ne sais pas si c'est en fleurs, mais ça pourrait être en fleurs, vous voyez ce que je veux dire.
Oui,
Des
paysages académiques avec une vraie technique.
Et comment décrire après, ça se transforme vite. Alors après, il y a des personnages, si je me souviens bien. Et après, ce qui constitue l'affiche de l'exposition, ça, il y en a plusieurs. Et ça revient, il me semble, vers un truc un peu plus... Je sais pas, alors là, c'est bizarrement foutu. On revient à un espèce de truc académique, mais raté, quoi, avec des contours flous, pour repartir dans quelque chose d'un peu plus bizarre. Et je vous avais demandé, est-ce que cette fin correspond à un genre de descente, en fait? Et ce qui est surprenant, c'est que tout ça se passe en 1h20, vous dites?
Oui, oui. Effectivement, nous, alors, il y a dans le livre infiniment plus d'images et de documents que dans l'exposition, parce que il a été nécessaire, c'était de retrouver tous les documents dont s'était servi René Robert pour sa thèse, ouais. C'est-à-dire à la fois les observations qu'il avait faites, à la fois les images, les œuvres qui avaient été produites pendant cette expérimentation. Parce qu'il y avait 28 artistes peintres, dont c'était le métier, certains ont fait l'expérimentation deux fois. Donc il y a eu 35 protocoles qui étaient tous faits selon la même procédure, c'est-à-dire une prise de 10 mg en général en présence d'un médecin expérimentateur qui prenait des notes et qui proposait à ces artistes d'être actifs. Mais après les deux premières expérimentations, il s'est rendu compte que si on demandait à ces artistes de faire une production, alors que l'effet avait déjà commencé, l'effet de la psilocybine avait déjà commencé, ils étaient beaucoup plus captés par par ce qui se passait à l'intérieur d'eux-mêmes que par l'intérêt de produire quelque chose. Donc ils ne produisaient pas. Oui. C'est pour cette raison qu'ils ont modifié le protocole et qu'ils ont décidé après de demander aux artistes de dessiner, de commencer à travailler avant même la prise. C'est pour cette raison que Lafitte a commencé à travailler comme il travaillait d'habitude, c'est-à-dire assez lentement, avec un académisme parfait, mais on lui a demandé de ne jamais s'arrêter. Donc, et tout d'un coup, son activité créatrice a été démultipliée. Et démultiplié aussi au niveau du temps, c'est-à-dire qu'au milieu de l'expérimentation, il produisait quasiment une œuvre toutes les 5 secondes. Donc,
D'accord. Oui, oui.
Les œuvres dont vous parliez, qui sont au milieu de celles qui sont exposées, puisqu'on les a exposées de façon chronologique pendant 7h20, ces œuvres-là sont d'un style totalement différent. En même temps, elles sont tout à fait passionnantes. Et certaines d'entre elles sont très belles, puisqu'une de celles-ci, effectivement, comme vous le disiez, constitue l'affiche. Ouais. Et au moment où l'effet s'atténue, Il est vrai qu'il retrouve un style qui ressemble davantage au style initial qui avait été fait avant, mais pas tout à fait quand même. C'est-à-dire que l'après n'est pas tout à fait semblable à l'avant. C'est d'ailleurs assez réconfortant de savoir que l'expérience a permis, induit aussi une modification un peu plus durable. Mais voilà, malheureusement, un des seuls exemples aussi complets qu'on a pu retrouver.
Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Parce qu'il n'était pas évident que René Robert ait tout conservé, ce qui lui avait servi comme matériel pour sa thèse. Il n'était pas non plus évident, alors que ce monsieur est décédé depuis longtemps, que son épouse ait tout conservé aussi. Donc, le point de départ de notre travail, ça a été de demander à cette dame, enfin on a retrouvé cette dame, ce qui lui restait comme document ou comme œuvre qui avait été réalisée pendant ce moment-là. Les œuvres, il y en avait deux cartons, enfin on en a exposé dans la première salle beaucoup, quand même, mais surtout le protocole prévoyait non seulement des observations écrites minute par minute, mais aussi des images. Donc elle avait conservé 630 hectares de tout ce qui s'était fait pendant l'expérimentation. Donc dans le livre, on a pu reproduire beaucoup de protocoles avec des peintres différents comme Iquilib, comme Paul Mreul, etc. Sauf que ces artistes-là, soit ils ont emporté les œuvres, soit elles ont disparu. En tout cas, elles n'étaient pas conservées dans les archives de René Robert. Nous n'avons pu exposer que celles qui avaient été conservées dans ces archives.
Il n'y a aucun document vidéo de ces expérimentations ?
Il n'y a pas de document vidéo.
Ah oui, ça c'est...
Il y a des photos qui étaient quand même... Puisqu'on a 630 hectares, c'est quand même beaucoup. Ce qui nous a permis d'avoir connaissance de ce qui s'est passé pour les artistes que je vous ai cités, et puis de constater que Jean-Jacques Lebel avait aussi participé à ce protocole.
Parce que voilà quelque chose dont on n'a pas parlé encore, c'est le rôle de Jean-Jacques Lebel dans l'exposition. Et aussi, ce que je comprends, c'est que ce ne sont pas des œuvres qui sont dans la collection du Centre d'Expression.
Oui. Voilà. Cette exposition ne comporte aucune œuvre du centre.
Aucune.
Néanmoins, comme je vous l'indiquais, c'est une expérimentation, ce sont des thèses qui ont été faites avec Robert Volma dans le cadre vraiment du début du centre d'études de l'expression. Donc, les liens avec l'histoire du centre et avec l'histoire de la psychiatrie sont très proches, mais il n'y a aucune œuvre de la collection Sainte-Anne.
Peut-être faudra quand même redire, parce que ça fait trois fois qu'on vous reçoit et qu'à chaque fois on vous redemande de préciser ce qu'est cette collection, mais peut-être plutôt en fin d'émission. J'aimerais savoir le rôle de Jean-Jacques Lebel, qu'est-ce qu'il apporte dans cette exposition.
Ce qu'il apporte, c'est que par un hasard assez extraordinaire, il avait pu nous dire à Antoine Gentil et à moi-même qu'il avait participé à cette expérimentation, et qu'en cherchant dans ses propres archives, il a retrouvé des œuvres qu'il avait faites pendant la prise de psilocybine. Des œuvres qui n'avaient jamais été montrées nulle part, puisque il avait lui-même un peu oublié leur existence. Et ces œuvres-là, nous les présentons, qui sont des œuvres tout à fait étonnantes et d'une très grande qualité, très peu différentes à mon avis des œuvres qu'il a réalisées avant et après, et que nous exposons donc là pour la première fois. Il y en a 8 dans cette première salle. Dans la deuxième salle, il y a d'autres œuvres de lui qui sont des œuvres réalisées soit avant, soit après.
Et c'est marrant parce que je m'étais noté sur mon petit papier avec ce que j'ai noté en regardant l'exposition. Il y a des fois où je me suis dit, il n'y a pas de différence finalement avec avant ou après.
Chez lui, non.
Mais pas que chez lui, il me semble. Chez d'autres, je me suis dit, finalement...
Oui, c'est assez logique. C'est-à-dire qu'il y a des réactions très individuelles. et des réactions qui sont sans doute liées à la nature du processus de création de chacun et puis à la déstabilisation que la psilocybine induit chez les uns et chez les autres, c'est inégal, bien sûr.
Oui. Après, il y a quand même des points communs, je trouve, graphiquement.
Oui.
La présence de, comment dire, de grosses masses noires, par exemple, de gros traits noirs. Enfin, je dis un truc complètement... Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, j'ai remarqué ça, par exemple.
Oui, chez Sam Mandel, par exemple, il y a des grandes analogies entre l'avant et l'après.
C'est les chats, Sam Mandel, oui, je me suis perdu.
Oui, c'est ça. Oui. Et c'est la structure après, interne de l'œuvre, mais on retrouve le style. Ce qui était étonnant chez Lafitte, c'est que le style est totalement différent.
Ah oui, mais complètement, oui. Oui, ça c'est marrant d'ailleurs. Mais vous voyez, il n'y a pas de... Du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure d'une expérience comme ça, puisque c'est... encore une fois, je suis néophyte, complètement. Qu'est-ce qu'on peut... Vu qu'il y a des effets tellement différents sur les gens, qu'est-ce que... Scientifiquement, puisqu'il s'agit de ça.
Oh, les conclusions, elles étaient de plusieurs ordres. Et effectivement, il y a des points de rencontre quand même. Mais c'était davantage sur les observations écrites que par rapport aux heures. C'est-à-dire que René Robert décrit des phénomènes de dépersonnalisation, des phénomènes hallucinatoires, des phénomènes de modification de la perception visuelle et auditive. Et il décrit un certain nombre de choses. Simplement, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que ça n'a pas forcément de répercussions dans les productions plastiques.
Oui.
C'est ça qui est pour nous très intéressant et qui était déjà un peu souligné par René Robert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transcription systématique dans l'œuvre de quelque chose, d'un dérèglement, qu'il soit induit comme là ou qu'il soit spontané comme par ailleurs. Donc et les quatre artistes qui sont présentés dans cette salle psilocybine. Ont eu des réactions au niveau physiologique et au niveau psychique qui peuvent se ressembler, mais au niveau de la transcription plastique, non. Pour certains, il y a un vrai changement, pour d'autres, il y a une constance, pour d'autres, c'est tout à fait différent.
Ce qui est plutôt rassurant.
Ce qui est totalement rassurant sur l'individualité, oui.
Peut-être, Laurent, on va écouter un petit peu de musique, toujours avec les Harry's.
Sur scène, Lucie, on va montrer Gabriel Toscola. On va peut-être se planter, Jérôme. Sur scène, Gabriel, Lucie, on va montrer Toscola. On va peut-être se planter, mais si c'est le cas, Gabriel et Lucie, on tombera avec les honneurs, avec la guirlande hurlante et le rock en nos cœurs. C'est le sentiment du rocker. On jouera ce soir, Lucie. Aujourd'hui, se bat que le rock nous apporte la gloire. Je vous salue. J'ai quelque chose à vous dire, Franck, le voyou. On va être les royaux rock. J'ai quelque chose à vous dire, Franck, le voyou. On va être, Franck, les royaux rock. Gabriel, mais si c'est le cas, Gabriel, on tombera avec les honneurs, avec la guitare, Gabriel, hurlante et le rock en nos cœurs, c'est le ferment du rockeur, on jouera se battre, que que Laurent Gabriel vous apporte la gloire. Je vous salue. Franck, Franck, que Laurent vous apporte la gloire. Je vous salue. Franck, je peux m'arrêter là, c'est bien ce que j'ai fait.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres consacrée aujourd'hui à l'exposition Psilocybine, quand la psychiatrie observe la création, les années 60 à Sainte-Anne, avec le docteur Anne-Marie Dubois. La docteur, peut-être, on peut dire, non, je ne sais pas.
Oh non, je
vous
suis...
tenez où
hein? Je ne suis pas forcément pour la féminisation des appellations.
Bon, d'accord. Alors,
je ne pense pas que l'égalité passe par la féminisation des mots.
C'est un vaste débat, ça. Hein, mais bon. Les années 60 à Sainte-Anne, et alors moi, ce que je me suis dit quand même, c'est que, et peut-être aussi par la présence, de, enfin, la présence active de Jean-Jacques Lebel dans la conception de l'exposition. Et vous savez, nous, on a l'habitude de diffuser des musiques. Par exemple, la musique rock psychédélique des années 60 était beaucoup marquée par cette prise de drogue des musiciens. Le truc le plus connu, presque, c'est les Beatles avec le Lucy in the Sky with Diamond, LSD. Là. Est-ce que vous pensez quand même que cette expo est... comme vous l'écrivez d'ailleurs, est marqué par ces années 60-là. Est-ce que ça aurait pu avoir lieu? J'ai l'impression que maintenant, ça pourrait plus trop avoir lieu.
Hein. Oh, ce oui. qui c'est, les expérimentations menées sous la direction de Delay à Sainte-Anne dans les années 60, ça ne pourrait absolument plus avoir lieu.
Ah oui, vous confirmez, oui, d'accord.
Ah oui, bien sûr. D'abord parce que les expérimentations des médicaments sont extrêmement contrôlées avec des tas de phases différentes. Et avant de passer, avant de commencer à donner des nouveaux médicaments aux hommes, ouais. ça prend à l'être, aux êtres humains, ouais. ça prend mais au moins une dizaine d'années. Les processus sont très très longs. Les contrôles sont extrêmement longs. Et je pense que.
Peut-être que c'est pas. C'est pas dommage.
Et les protections des malades
oui,
sont.
Voilà,
les droits des patients sont extrêmement préservés. Ouais. Mais là, nous avons mis l'accent sur une expérimentation qui était sur des gens, enfin, dits normaux, artistes. Donc, et c'était vraiment pour essayer de voir quel était l'impact sur leur production plastique. Ça, déjà. Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre que. Qu'un service de psychiatrie très renommé pourrait maintenant, enfin je suis même sûr du contraire, s'adonner à ce type de recherche, bien sûr.
Là, je pense que les gens étaient volontaires, en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais. Donc ça quand même, ça revient à donner de la drogue, comme on dit, de la drogue à des gens, quoi.
Non, ça revenait à expérimenter un produit qui avait des effets sur le psychisme.
Ouais.
Maintenant, on dirait, je pense que c'était formulé comme ça et que c'était pensé comme ça. Maintenant, on dirait, oui, oh là là, mon Dieu, ils ont donné de la drogue à des malades.
Oui, bien sûr.
Mais il y avait
qu'est-ce qui a changé alors?
On est beaucoup moins libre maintenant.
Qu'en donc?
Que pendant ces années-là, j'imagine.
Bah, c'est pas ce qu'on croit comprendre de ce qu'on écoute à droite et à gauche.
Hein en tout cas, les recherches en psychiatrie étaient sans doute plus libres.
Ouais.
Les contraintes étaient bien moindres.
Bah oui, mais alors oui, mais après, est-ce que c'était pas un bien? Parce que je ne sais pas hein, vraiment. Mais moi, je me place du côté des patients ou des. Est-ce qu'on faisait pas un peu? Est-ce que c'était pas un peu n'importe quoi aussi?
C'était le début de la psychiatrie, de la psychopharmacologie. Ouais. C'était le début. Après. effectivement, ça n'avait plus lieu d'être. Enfin, des recherches sur la psilocybine existent avec les normes des recherches maintenant et dans d'autres pathologies, comme je vous l'ai dit. Mais après, une fois que les neuroleptiques ont été découverts, que les antidépresseurs ont été découverts et que d'autres produits neuroleptiques et d'autres produits antidépresseurs ont aussi été mis sur le marché, les découvertes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup, mais celles qui existent ne se font pas de cette façon-là. Mais
c'est comment alors maintenant?
Oh, c'est pas du tout ma spécialité, la psychopharmacologie, mais je pense que il y a beaucoup de phases d'expérimentation animale et bien avant qu'un médicament soit avant une mise, une autorisation, une AMM, ça s'appelle, avant l'autorisation de mise sur le marché des médicaments, il faut énormément de procédures.
Oui, mais bon, les scandales médiateurs et autres qu'on a connus justifient ce truc-là, quand même.
Absolument, absolument. Ouais. Tout à fait.
Alors, peut-être, on va revenir sur l'exercice obligé. Je ne sais pas si c'est obligé, mais ce serait intéressant. Ça fait quand même quelques temps que vous n'êtes pas venu, Anne-Marie Dubois, peut-être nous expliquer ce qu'est la collection Sainte-Anne et comment elle s'est constituée et qu'est-ce qui se passe avec ça actuellement?
Il se passe beaucoup de choses avec ça. De plus en plus de choses, ce qui est heureux. Oui. La collection Sainte-Anne, elle a, d'ailleurs, sa constitution est assez proche des dates des années 60 qu'on évoque. Parce que Sainte-Anne, dans les années 40-50, était un lieu de rencontre assez riche entre les psychanalystes, les psychiatres, les surréalistes. Ferdière était aussi ami de Breton, Delay était ami de Michaud, etc. Donc il y avait des conférences, bien avant Lacan, il y avait des conférences, il y avait des choses tout à fait passionnantes qui s'y passaient. Et c'était aussi une époque où Breton avait écrit La clé des champs, l'art des fous ou La clé des champs, c'est-à-dire il était très passionné par les productions plastiques, spontanées, des passions malades. Et c'était dans la droite ligne de l'héritage de Prince Horn aussi, et puis de la constitution par Dubuffet de sa collection. Donc on était dans cette époque-là. Lorsque, en 1950, il y a eu le premier congrès mondial de psychiatrie à Paris, à Sainte-Anne. Et comme c'était ces mêmes psychiatres, avec toutes les relations que j'ai citées, qui l'ont organisé, ils ont eu envie d'organiser parallèlement à ce congrès, et de façon très... très réussie, une exposition des œuvres que les 16 pays participants à cette exposition pourraient apporter, puisque dans tous les hôpitaux psychiatriques du monde, il y avait des patients qui avaient une activité artistique spontanée la plupart du temps, et puis dans un deuxième temps, favorisés par les psychiatres qui s'occupaient d'eux et qui voyaient que c'était important pour eux et que ça pouvait être aussi une façon de participer à leur équilibre. Alors, plein d'œuvres ont été rassemblées à ce moment-là. Pardon, des œuvres donc de 16 pays différents et de nombreux hôpitaux de France. Beaucoup de gens ont visité cette exposition qui a été ouverte au grand public. Et à l'issue de cette exposition, de nombreux pays ont donné au service et à mes prédécesseurs des œuvres qui avaient été exposées. Et ça a été le point de départ de la constitution de la collection.
D'accord.
Qui après, depuis 1950, n'a cessé de s'enrichir et de se compléter. Pas uniquement d'ailleurs avec des œuvres d'artistes malades ou de malades artistes, mais aussi d'autres œuvres. Ce qui fait que c'est une collection assez riche dans l'étendue de sa constitution.
Oui, je crois que vous nous expliquez ça. La première fois que vous êtes venu, en fait, que les artistes contemporains actuels enrichissent Oui. Alors, je ne sais pas si c'est la collection ou ponctuellement sur les...
Non,
sur
enrichissent les la collection.
Oui, c'est ça. Enfin,
pas systématiquement. Ce n'est pas des dons très forcément sans objet. Enfin, sans objet, sans sens. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une idée d'exposition, on choisit les œuvres à la fois dans le fond de la collection Sainte-Anne et à la fois, chez certains artistes contemporains, dont les œuvres peuvent correspondre à ce qu'on souhaite démontrer, au propos de l'exposition, en tout cas. Donc, sont mélangées des œuvres d'artistes de l'extérieur avec des œuvres de la collection Sainte-Anne, toutes présentées de la même façon, bien sûr. Il n'est pas dit dans l'exposition que ça vient de là ou de là.
Et il n'y a pas de différence entre...
Il n'y a aucune différence dans la présentation qu'on en fait. Oui. Et quand les gens viennent, ils ne sont pas forcément à même de faire la différence non plus entre les œuvres de la collection Sainte-Anne et les œuvres qui viennent de l'extérieur. Ce qui est quand même une chose aussi qu'on a envie de démontrer.
Ouais. Sauf que, alors peut-être je me trompe, mais il n'y a pas un petit texte quand même pour présenter le parcours des gens ?
Non. Il y a des cartels.
Oui, il me semble.
Il y a des cartels qui donnent le nom, la date, le titre, qui donnent la technique.
Oui, exact.
Mais tout le monde est présenté de la même façon.
Oui, on avait parlé ça. Donc c'est une volonté de ne pas différencier.
Exactement. Toutes les œuvres sont là pour servir le propos de l'exposition, mais que ce soit des œuvres qui viennent de la collection ou des œuvres qui viennent d'ailleurs.
Pour être précis, que ce soit des œuvres qui proviennent de patients de l'hôpital Sainte-Anne ou non.
Absolument.
Oui, c'est ça. Et peut-être, moi je voulais aussi revenir sur un... vous avez évoqué André Breton et... dans l'interview de 10 minutes que j'ai réalisée, même pas 10 minutes, 5 minutes de Jean-Jacques Lebel, que j'ai complètement raté, donc qui est indiffusable, il commençait son propos quand même par parler des Aztèques. Mm-hmm. Vous voyez, et je pense que tous ces trucs-là, c'est Pilou, Bicine, ce sont des champignons qui je pense, sont utilisés de façon rituelle.
Bien sûr. D'ailleurs, il y a. Oui, bien sûr, les Aztèques étaient les. Premier, enfin, ces produits qui induisent des modifications de l'état de conscience ont été intégrés à des rituels de
sacrés, disait Jean-Jacques Lebel.
Depuis toujours, oui. D'ailleurs, dans le livre, il y a un article très documenté, très précis des mondes de l'estrange sur toute cette histoire qui remonte. Effectivement, à l'époque des Aztèques. C'est pour ça que Roger M. est aussi allé chercher ces champignons de psilocybine au Mexique pour tomber sur les souches originelles, sans doute.
Qu'on trouve en France aussi, d'après ce que je comprends.
Qu'en fait, on trouve en France aussi, semblerait.
Bon, pas se mettre à chercher, mais Laurent, est-ce qu'on écoute un petit peu une petite pause musicale ? Alors, toujours les Harry's.
Fantasio, hôpital de jour, j'aime tout le monde. Mais je te dis, Fantasio, mais je te dis, je t'avais dit, Jeannie, que je l'aimais beaucoup. Mais je l'aime beaucoup, moi. Je l'aime beaucoup. Mais quand j'arrive le matin, je l'aime bien. Je l'aime bien. Si, eh bien, je veux t'embrasser. Junior. J'aurais jamais dû, Julien. Je voulais regarder tout le monde, Julien. Julien, j'énerve pas tout le monde, Julien, là. J'énerve pas tout le monde en Radio Libertaire. Mais je te dis, Julien.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres est consacrée aujourd'hui à l'exposition Psilocybine avec Anne-Marie Dubois. Alors peut-être vous vouliez nous parler de la deuxième salle, donc la salle de droite en entrant dans le musée Saint-Gervais-Polignac. Effectivement, quand vous me dites ça, moi j'avais noté que pas mal des œuvres présentées n'ont pas été faites sous l'influence de Psilocybine. J'aimerais bien. Qu'est-ce que ça vient faire là, alors, finalement?
Oui. Alors, finalement, dans cette deuxième salle, nous avons mis des œuvres d'artistes qui ont eu un rapport très étroit avec les prises de produits, que ce soit du hashish, de la mescaline ou du LSD. D'abord parce qu'on n'a pas retrouvé suffisamment d'œuvres qui avaient été réalisées sous psilocybine, et puis parce que ça me paraissait intéressant de pouvoir aussi montrer d'autres œuvres qui avaient un lien, c'est-à-dire des témoignages ou des œuvres produites par des gens qui avaient l'habitude d'essayer d'explorer leur création en la stimulant ou en la confrontant à la prise de produit. Donc c'est pour cette raison qu'il y a des œuvres de Michou.
Oui, Michou.
Et qu'il y a des œuvres aussi de Bernard Sabie qui a été beaucoup expérimenté de multiples produits et qui a une œuvre tout à fait fascinante. Alors, on ne sait pas, évidemment, à quel moment, par rapport à leur prise de produits, ces œuvres ont été faites, mais ce sont des artistes qui ont eu un rapport étroit avec des substances capables de modifier leur perception et la création. Donc c'est pour ça que Sabie, Pardot, Michaud sont présents dans cette deuxième salle. Et les Bernard Sabie ont été, nous avons pu les emprunter à la Galerie des Yeux Fertiles, et Jean-Jacques Lebel en avait également chez lui et en a prêté pour cette exposition. C'est la même chose que pour les œuvres de Frédéric Pardot. Donc Jean-Jacques Lebel, en dehors d'avoir été un participant ayant retrouvé ses œuvres produites sous psilocybine, a aussi prêté des œuvres de ses amis qui ont eu un rapport très étroit avec la prise de produits hallucinogènes.
On voit d'ailleurs, alors je ne sais pas là du coup, mais une espèce de même forme, je dirais, entre là, ce qu'on voit chez Bernard Sabie ou Michaud, où il y a un genre, quoi, je ne sais pas comment dire.
Peut-être. Peut-être. En tout cas, vous pouvez le trouver, oui.
Alors il y a aussi un truc, alors là c'est en plein milieu, parce que c'est presque à l'entrée du musée Polignac, c'est le... une œuvre du grand Charcot, du maître Charcot, je ne sais pas comment on dit. Mais...
Oui, absolument, ouais. des grands médecins de la fin du 19e, maître de Freud.
Oui, voilà, tout à fait. Mais on n'est plus du tout dans les années 60, c'était un hommage. C'est quelque chose qu'il a fait sous hashish.
Sous hashish, ouais. Oui. Charcot dessinait beaucoup. On a retrouvé aussi des observations. Enfin, il y a dans la bibliothèque qui conserve les œuvres, le fonds Charcot, il y a des observations qui sont très détaillées, comme on le faisait, très bien écrites, mais qui sont toujours illustrées pour les malades de Charcot par des dessins. Et il dessinait remarquablement bien.
Ah oui.
Et d'ailleurs, il a été, comme vous savez, très... très intéressé par les mouvements des hystériques, la volonté de fixer ses attitudes, ses mouvements. C'était un artiste aussi, Charcot. Donc, il a fait ce dessin sous hashish. Donc, c'était effectivement pour dire, voilà les débuts ça s'appelait pas la psychiatrie à l'époque, mais les débuts des recherches, c'était des neurologues, ça. Les débuts des recherches autour des produits susceptibles de modifier les perceptions. C'est un tableau emblématique, et entre les deux salles, évidemment.
Alors, tout à l'heure aux antennes, quand on écoutait les Harry's, on parlait un petit peu de l'effet bénéfique de la musique sur les autistes. Et ben, c'est une transition plus ou moins habile avec cette soirée musicale que vous organisez en lien avec l'exposition, avec l'ensemble Zelig. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ça? Est-ce que vous avez le programme? Moi, je l'avais, mais je l'ai plus. Il est dans mon sac.
Oui, l'ensemble Zelig, ça va être la troisième année qu'on travaille avec cet ensemble, oui. Qui est à la fois un ensemble musical et un ensemble de comédiens.
D'accord. Ouais.
Dont j'aime beaucoup le concept de nos rencontres, c'est-à-dire que nous concevons une exposition et ces grands professionnels de la musique et du théâtre créer un programme de musique contemporaine totalement organisé autour du programme de l'exposition. Donc, ils choisissent des œuvres qui font sens par rapport à ce qui est exposé.
Mmh.
Et là, il y a un mélange de... Yvan Morane, qui est le comédien, lira des textes de Baudelaire et des textes de Michaud, bien évidemment, et d'autres œuvres également de musiciens des années 60.
Ginsberg, Izu, et puis après les musiciens John Cage, Xenakis, Stockhausen.
Exactement.
Giacinto, celle-ci. Mais alors oui, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, moi, ça m'aurait plutôt évoqué, c'est vrai, de la musique psychédélique, rock ou... Non, vous...
C'est un ensemble, l'ensemble Zelig, qui est spécialisé dans la musique contemporaine.
Voilà. Bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. ce qu'ils veulent.
Non, oui. Ils font avec leur répertoire aussi.
Oui, voilà.
Non, ça ne sera pas de la musique psychédélique.
Mais il y a pourtant des liens, j'imagine, en fait. Pas tout à fait évident, à vrai dire. Si, les auteurs, Baudelaire, Michaud, ok, mais Ginsberg, évidemment, mais... Ouais, peut-être que le mieux, c'est d'écouter Chelsea. Colo pour flûte et clarinette.
Thank you.
Alors voilà, on va conclure cette émission eh ben sur l'exposition Psilocybine. J'y arrivais.
Psilocybine.
Psilocybine. Ah, mais c'est pour ça, c'est parce que là, j'ai mal noté, en fait. C'est pour ça que je me trompe une fois sur deux. Bon, voilà, désolé.
C'est assez joli, d'ailleurs, comme...
Oui, psilo, comme... c'est champignon, je pense, non ? C'est la racine. Je n'ai pas fait de langue morte. J'ai déjà du mal à beaucoup avec les langues vivantes. Et, je vais vous demander, eh bien, peut-être Allez, si, un tuyau avant, peut-être. Est-ce que vous avez une idée des prochaines expositions au musée Saint-Gerre-Polignac ?
Oui, oui.
Alors ?
Petite idée quand même.
Alors ?
Vous savez que cette exposition Psilocybine a été très longue et assez compliquée.
Ah, mais j'en ai entendu parler une fois que je suis venu.
Assez compliqué à mettre en place. Donc on est obligé de penser les expositions assez longtemps à l'avance. Ouais. En tout cas, la prochaine, qui sera au printemps, sera consacrée à toutes les nouvelles acquisitions, enfin, ou tous les nouveaux dons, plus exactement, puisqu'il n'y a pas de transactions financières, tous les nouveaux dons d'œuvres d'artistes contemporains ou d'anciens malades devenus artistes à la collection Sainte-Anne depuis 5 ans. Donc ça va être une présentation de toutes ces œuvres-là, ce qui est... important de les montrer. S'ils les ont donnés à la collection, c'est parce qu'ils attachent du prix à la collection, qu'ils sont engagés dans quelque chose d'une démarche proche de la nôtre, mais je trouve que c'est important de leur rendre hommage en montrant tout ce qu'ils ont pu donner pour enrichir cette collection. Ça sera la prochaine.
Prochaine, donc au printemps 2016.
Printemps. Oui.
Les nouvelles acquisitions sans thème particulier,
sans thème particulier, mais en regroupant les œuvres par artiste, parce qu'il y a des artistes qui ont participé plusieurs fois et qui ont donné plusieurs fois.
Toujours sans distinction entre anciens patients et.
Oui, enfin, les anciens patients qui sont devenus des artistes, il n'y a pas de raison de les distinguer des artistes.
Mmh. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner aussi les renseignements techniques,
site ?
Combien ça coûte d'aller voir une exposition au musée Saint-Gerre-Polignac ?
Ça coûte un peu d'obstination parce qu'il faut trouver le musée. C'est pas si compliqué, métro Glacière ou métro Saint-Jacques.
Vous dites ça parce que c'est dans le 14e arrondissement. Quand même. L'excellent 14e arrondissement. Non, ça va, c'est pas très compliqué quand même.
Non, je trouve, mais on entend parfois dire que un musée un peu confidentiel, alors que quand même, je trouve que beaucoup, beaucoup de gens viennent depuis quelques années. Si, je peux préciser aussi que c'est ouvert tous les jours du mercredi au dimanche, de 14h à 19h. Donc le week-end, c'est un lieu agréable, le parc de l'hôpital Sainte-Anne, pour se promener quand il fait beau.
Oui.
C'est un beau lieu.
C'est un beau lieu.
Et c'est un lieu où tout le monde peut se promener.
Mais alors après, pour préciser l'entrée, en fait, bon voilà, on entre dans le...
C'est l'entrée principale de l'hôpital.
L'entrée principale, voilà.
Donc c'est simple.
On passe devant le gardien, on lui dit bonjour, on est très, très aimable avec lui. Et puis c'est tout de suite à droite, il y a un cours de tennis.
Voilà,
et juste à côté. Et on descend un escalier.
C'est un musée qui est en sous-sol, voilà. C'est dans des salles voûtées, effectivement. Donc,
bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a donc vous dites c'est un peu d'obstination, mais c'est pas tellement d'euros, je crois, hein. C'est 0 euros, il me semble.
C'est 0 euros.
Voilà, 0 euros.
Vous avez raison, l'entrée est gratuite. L'entrée ne sera pas gratuite pour le concert de Zelig parce qu'il y a des contraintes d'organisation. C'est juste une participation aux frais, d'ailleurs, modique de 5 euros que nous demandons. Mais l'entrée de ce musée est gratuite.
Vous avez un site internet ?
Absolument. Et alors, ce qui me ferait plaisir de pouvoir vous dire, c'est que depuis un an, nous avons créé sur ce site une galerie virtuelle. Donc,
tout à fait. C'est excellente, oui.
Cette galerie virtuelle présente tous les mois un nouvel artiste de la collection. Alors on présente des œuvres de ces artistes avec des notices assez complètes sur l'artiste dont les œuvres sont présentées et une notice bibliographique qui raconte dans quelles expositions ces œuvres ont été montrées. Donc c'est pour pouvoir dire aussi que cette collection, elle n'est pas faite pour être enfermée dans des réserves, elle est faite pour être montrée le plus souvent possible et que en dehors de l'hôpital Sainte-Anne, en dehors de notre musée, rue Cabanis, où l'exposition Psilocybine est en ce moment, des œuvres de la collection sont présentées aussi dans d'autres lieux. Cette année, elles ont été présentées à Amsterdam, elles ont été présentées à Mons, elles seront présentées à Reims, certaines Aloïses ont été présentées aussi au LAM au début de l'année, donc elles circulent et elles se voient.
Musée Saint-Gervais-Polignac, 1 rue Cabanis, dans le 14e arrondissement de Paris. Le site internet www.centre-études-expression.com. Et l'exposition est jusqu'au
29 novembre.
29 novembre, c'est tous les jours ? Non, c'est du mercredi.
Du mercredi au dimanche.
Au dimanche de
14h à 19h.
Eh bien, très bien. On va faire quelques annonces, Laurent. Alors ce soir, c'est, je ne sais plus à quelle heure c'est, j'ai pas noté, CE à la librairie Publico, c'est à 19h en principe. Discussion autour du livre Micropolitique des groupes de David Vercotoren, comprendre et tenter de résoudre les dysfonctionnements collectifs. Un groupe n'est pas seulement une somme d'individus, la macropolitique d'un groupe, c'est son projet, ses objectifs. La micropolitique, ce sont les rapports sociaux au sein du groupe, ses règles, ses dysfonctionnements. Conflit de pouvoir, scission, psychologisation, autant de mots qui marquent trop d'histoires de groupe. Mais sommes-nous capables de tirer des leçons de ces échecs ? N'y a-t-il pas des savoirs à cultiver pour les éviter de reproduire certaines erreurs ? Comment apprendre de sa propre expérience et de l'expérience des autres ? Le livre se base pour l'essentiel sur des situations vécues et se découpe en chapitres thématiques, rôles, décidés, réunions, évalués, artifices, groupes en crise, pouvoir, scission, parler, autodissuasion, souci de soi, donc à la librairie Publico. Ce soir, donc, c'est 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Ce soir également, au Souffle Continu à 18h30, donc le Souffle Continu, c'est une boutique de disques, 22 rue Gerbier, dans le 11e arrondissement de Paris. Quentin Rollet au saxophone et Thierry Muller, clavier électronique. Quentin Rollet sera notre invité le 6 novembre. Au 99 rue du Ruisseau, dans le 18e arrondissement de Paris, métro Porte de Clignancourt, les Soirées du Ruisseau, duo Bertrand Denzler au saxophone et Antonin Gerbal à la batterie, duo Henri Roger au piano et Jean-Marc Foussa, synthétiseur analogique, au 99 rue du Ruisseau, dans le 18e arrondissement de Paris. Et enfin, Upski 2. Alors, un programme riche, Clément Nicholson Project, Fripon de Port avec nos amis Laurent, présent à la technique aujourd'hui même, Jacques Pocha au saxophone, oh, peut-être pas d'ailleurs, si, Cathy Hayden, Romaric Sobag, bien sûr, Charlie Sheen à la guitare, et puis bien sûr, Yedrek Zagorski à l'électronique, on va dire. Donc ça, c'est une deuxième partie. Je ne sais pas si dans l'ordre, hein, il ne me semble pas. Hein. Scène from Salad, c'est le solo de Jean-Charles Delarue qu'on recevra également en octobre, ou novembre, je pense d'ailleurs même. Et Le Gros. Alors Le Gros, je ne sais pas ce que c'est. Tu sais, toi, Laurent ?
Un duo avec Marius Loris et Thomas Midragon.
Très bien. C'est à l'Entre-deux-Mondes. L'Entre-deux-Mondes, 66 rue des Noyers, 93 Aubervilliers, dans la Seine-Saint-Denis, métro Aubervilliers, 4 chemin Pantin, métro Front Populaire, la ligne 12, bus 170, arrêt mairie d'Aubervilliers, Schaeffer. Participation aux frais, libre. Et alors, il y aurait plein d'autres. Est-ce que tu as un autre concert à nous ?
Notamment, la soirée organisée par l'atelier Tampon Nomade, c'est ce soir aussi. C'est à 20h30 et j'ai retrouvé l'adresse, un nouvel endroit, le 23 rue des Petits Hôtels à Paris, dans le 10e arrondissement. Et donc le duo Didier Lasserre et Michel Doneda et en première partie le solo de Félicie Bezler, donc organisé par l'ami Marc Feur.
D'accord. Eh bien, sinon, alors, il y a plein d'autres trucs. Il y a trois pages d'annonces sur l'excellent agenda de notre copain Jean-Jacques Gallet, JJG Free. JJG, voilà, comme les lettres JJG Free, FR2E, @gmail.com. Vous lui envoyez un message, vous lui dites je veux absolument recevoir ton agenda. Et il y a absolument tout. C'est incroyable le travail que fait notre copain. Voilà, il y a tellement de de choses qu'on... Il faudrait consacrer une heure de l'émission à dire tout ce qu'il y a sur ce... Alors, il n'y a pas seulement en musique, hein, mais en cinéma, en spectacle vivant, en tout ce que vous voulez. jjgfree@gmail.com. La semaine prochaine, on fera notre émission sur le groupe danois Selventer. Et voilà, on va se quitter avec les Harry's. L'extrait de l'album qui vient de sortir, J-Got. Alors, je ne suis pas sûr de la prononciation, oui, pour Gigot peut-être, non J-Got, je ne sais pas. Et les Harry's, donc, de l'excellente émission Radio Tisto, tous les deux fois par mois, mercredi, le deuxième et le quatrième mercredi du mois, voilà, de 14h30 à 16h, peut-être, hein, à peu près. Merci beaucoup Anne-Marie Dubois.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt, j'espère, oui.
Salut Laurent.
David.
Ouais.
Qu'est-ce qui est mou?
Une pizza.
Qu'est-ce qui est dur?
Un œuf.
Qu'est-ce qui est poilu?
Une poêle.
Qu'est-ce qui est vide?
Le verre.
Qu'est-ce qui est plein?
Un asticot.
Qu'est-ce qui est liquide?
Le javel.
Qu'est-ce qui est doux?
Un doudou.
Qu'est-ce qui est en béton?
En béton? C'est un mur.
Qu'est-ce qui est mûr?
Mûr.
Radio Libertaire 89.4 Radio Libertaire 89.4.